Le réchauffement planétaire continue, la montée des eaux est encore plus rapide, les catastrophes naturelles sont un nuage noir qui plane sur l'humanité. Entre-temps, une conférence cruciale pour le climat se tient actuellement en Allemagne, à Bonn. La session annuelle de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est ouverte lundi avec les représentants des 196 pays signataires. L'un des enjeux de la session de Bonn préparatoire à celle de 2018 est de poursuivre les discussions engagées à Marrakech lors de la COP22 sur le fonds d'adaptation. Joël Ruet, vous êtes économiste et chercheur au Centre d'économie de Paris Nord. Quels sont les enjeux de cette réunion ?
Alors d'abord, je crois qu'il y a un enjeu principal qui est la position des États-Unis et puis accessoirement la position de la Russie. Vous savez que depuis l'élection de Donald Trump, qui a eu lieu d'ailleurs pendant le sommet de la COP22 à Marrakech, il y a une grosse incertitude qui pèse en particulier sur la volonté des États-Unis de renégocier l'accord. Donc je crois que le premier enjeu, c'est de savoir si les États-Unis vont renégocier l'accord, dans quelle mesure et de savoir si l'accord peut continuer sans les États-Unis.
Que se passera-t-il si les États-Unis se retirent, effectivement ?
Alors, d'abord, je crois que le pire n'est jamais sûr. Il y a quand même 144 pays qui ont ratifié l'accord. Il y en avait déjà 100 qui avaient ratifié l'accord avant le sommet de Marrakech, donc entre l'accord de Paris, entre le moment de l'accord de Paris en novembre 2015 et le sommet de Marrakech, 100 pays avaient ratifié. 44 États ont ratifié l'accord également au moment du sommet de Marrakech. Donc ça fait quand même 144 pays sur 197 qui ont ratifié l'accord et ces pays couvrent, j'allais dire, une immense majorité des émissions. Vous avez aujourd'hui également, les États-Unis sont dans une position difficile parce que vous avez la Chine qui pousse vraiment pour non seulement ratifier l'accord, pousser à ce que l'accord soit respecté internationalement, mais pour que eux-mêmes, la Chine, prennent une position dominante sur les technologies vertes, et la Chine offre elle-même d'aller au-delà de son propre engagement. Donc il y a un enjeu, j'allais dire, économique et technologique pour les États-Unis, et au-delà de la position de l'administration, l'industrie américaine elle-même souhaite aller très au-delà. Donc je crois que le risque que les États-Unis se retirent est, à mon avis, faible. Il y aura sans doute un risque que les États-Unis demandent des aménagements.
Il y a également la pression des investisseurs qui se sont engagés avec plus de 150 milliards de dollars dans des projets environnementaux. Sur quoi se sont-ils engagés au juste ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Le poids des acteurs est aujourd'hui très important. Si vous voulez, tout le monde disait pendant le sommet de Marrakech que les États avaient fait le maximum de leur travail et qu'aujourd'hui, c'était les investisseurs. Vous avez parfaitement raison de signaler que les investisseurs se sont impliqués à hauteur de 150 milliards sur le fonds vert, enfin, c'est uniquement le fonds vert, mais plus avant encore, où il y a quelques jours, un collectif d'investisseurs de long terme s'est engagé pour un montant 100 fois plus important que ce que vous indiquez, non pas 150 milliards, mais 15 000 milliards de dollars, donc 13 700 milliards d'euros, plus de 140 milliards de dirhams, c'est énorme. Ça, c'est le montant des fonds que ces investisseurs de long terme ont sous actifs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces investisseurs de long terme ne vont pas mettre ce montant supplémentaire dans l'économie verte, mais que les actifs qu'ils ont sous gestion vont devenir de plus en plus, vont passer de l'économie grise à l'économie verte. Donc il y a une pression des investisseurs qui est énorme. Et on peut considérer aujourd'hui que la majorité des investisseurs au niveau mondial ne veulent plus investir dans une économie qui ne serait pas verte.
Il y a aussi ce rulebook qui est en train d'être préparé. Le contenu du dialogue facilitateur programmé en 2018 est conçu comme un bilan intermédiaire pour les pays en attendant le bilan final prévu pour 2023. De quoi est-il question ? Et y a-t-il des contraintes qui seront imposées pendant ce rulebook aux pays qui font volte-face ?
Alors, je crois que, si vous voulez, en termes de contraintes imposées aux pays, ça n'est pas possible. Parce que, aujourd'hui, l'accord de Paris, de la COP21, a été négocié, a été accepté par les parties prenantes, précisément parce qu'il n'avait un caractère non contraignant. Ça a été l'innovation apportée par la présidence française et confirmée par la présidence marocaine de la COP22, de se placer dans un dispositif non contraignant. Mais vous pouvez être non contraignant sur le plan juridique et être suffisamment incitatif au niveau politique et au niveau économique. Encore une fois, quand 144 pays ont ratifié, quand vous avez les plus grands pays comme la Chine qui veulent tirer un avantage technologique et économique de se lancer dans la course, quand vous avez vu récemment, il y a quelques jours, l'élection de M. Macron en France, dont l'une des premières déclarations a été de dire qu'il souhaitait appuyer la réalisation de l'accord et aller plus avant dans l'accord et faire que la France et l'Europe, dans un nouveau partenariat renouvelé avec l'Allemagne, deviennent leaders de la décroissance carbone, vous avez un enjeu de compétition face aux États-Unis qui est bien plus fort que tout élément contraignant. Et encore une fois, l'implémentation, de toute façon, sera liée non pas tellement aux États, mais sera liée aux décisions réelles des acteurs. Et quand on voit que vous avez l'ensemble des investisseurs de long terme, encore une fois, 150 000 milliards sur la table qui veulent aller vers quelque chose, je crois que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que tout élément coercitif ou légal. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble des décisions prises sur la planète qui sont prises selon des critères économiques. Si vous voulez, quand vous voyez le prix des matières premières qui baisse ou qui monte, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle politique nationale ou que n'importe quelle coordination faite même par l'ensemble des pays du G20. On l'a vu très bien sur d'autres exemples depuis la crise mondiale de 2008. Ce ne sont plus les États qui décident, les États donne un cadre, s'engage, qui donne confiance aux investisseurs. J'allais dire, la confiance est partie déjà. Le coup est parti, la confiance est établie. Je crois que ça va être très dur pour les États de renégocier. Alors les États et les États-Unis peuvent évidemment négocier leur part dans le fonds vert, ils peuvent cesser d'appuyer le fonds vert, ils peuvent cesser d'appuyer un certain nombre d'initiatives auprès des Nations Unies, mais c'est très minime par rapport au poids de l'économie réelle.
Donc, pour revenir vers ce dialogue facilitateur programmé en 2018, qu'est-ce qui sera décidé ces jours-ci à Bonn concernant ce dialogue facilitateur, notamment avec la Chine ?
Traditionnellement, vous savez que les sommets des COP ont lieu en novembre, pardon, et que les réunions de Bonn sont des réunions à mi-course. En général, les réunions de Bonn, je ne dirais pas qu'elles sont moins importantes, mais sont des réunions préparatoires du prochain sommet. Moi, je pense que, comme si on se fonde sur la plupart des réunions de Bonn précédentes, donc à mi-présidence des années précédentes, il n'y a en général pas grand-chose qui est discuté. Il y a en général un état des lieux. Cette année, c'est un peu particulier parce qu'il faut que l'ensemble des délégations fassent connaissance avec la nouvelle délégation américaine, enfin la délégation de la nouvelle présidence américaine. Je crois que la délégation américaine va demander des aménagements sur les outils qui dépendent de la COP, donc des Nations Unies, puisque la COP est placée sous l'égide des Nations Unies, mais que vous, à côté des négociations entre... Il faut bien visualiser comment se passent ces négociations. Vous avez dans une salle les négociateurs et vous avez tout autour, dans la zone bleue des side events ou dans la zone verte d'autres side events, qui mobilisent la société civile et la société financière. Donc ce qui va être intéressant de voir dans les 15 jours qui viennent, c'est la pression que les acteurs de la société civile et la pression que les acteurs de la société financière mettent en place sur ce workbook. Alors l'enjeu de ce workbook était quelque part pour certains pays, et en particulier pour la délégation africaine et la délégation marocaine, l'enjeu était d'accélérer encore les objectifs, d'améliorer encore les objectifs par rapport à la COP 21 et à la COP 22. Donc je crois en effet que là, il faut être pessimiste, on n'arrivera pas à améliorer les objectifs, mais je serais très étonné qu'on diminue les objectifs.
Quel sera le rôle et l'impact de l'Afrique dans ces négociations ?
Alors le rôle de l'Afrique est croissant, il a été croissant depuis à peu près la COP 20 qui a eu lieu au Pérou, donc en 2014. Il faut bien voir que la délégation africaine est l'une des plus cohérentes, l'une des plus stables dans la durée sur ses positions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir qu'au sein de l'Afrique, et au sein de l'Union africaine en particulier, le dossier climat est le dossier sur lequel les positions de l'ensemble des États africains sont les plus convergentes. Vous avez, depuis 3 ans, un représentant de l'ensemble des pays africains. Les pays africains parlent d'une voix. Et il y a une coordination au niveau... une coordination très forte au niveau des chefs d'État africains, au niveau des ministres de l'environnement africains et au niveau des Sherpas et des négociateurs. Parce que vous savez, il y a énormément de... Il y a des réunions régulières, il n'y a pas uniquement la réunion du sommet chaque année, et puis il n'y a pas uniquement la réunion à mi-course de Bonn, l'ensemble des réunions techniques voient à chaque fois l'Afrique avoir une position très homogène. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le rôle de l'Afrique a été très fort depuis la COP21 pour mettre en place les enjeux d'adaptation. Si vous voulez, historiquement, pendant les 20 premières COP, la négociation portait sur les émissions de CO2 et assez peu sur l'adaptation au changement climatique et sur les financements de l'adaptation au changement climatique. Or, l'Afrique est la plus impactée parce que s'il y a un changement moyen de 2 degrés sur la planète, il y aura sans doute un changement beaucoup plus important, moyen beaucoup plus important sur l'Afrique, 3 degrés, voire sur la bande sahélo-saharienne, un changement de 4 degrés. Donc l'Afrique est non seulement très impactée par ce changement climatique, mais également porteuse de solutions, puisqu'aujourd'hui c'est le continent le moins émetteur, et donc c'est le continent qui va avoir le plus fort développement économique. Donc c'est le continent, sur lequel vous avez le plus fort potentiel pour avoir une croissance verte à moindre coût. Et ça, depuis la COP21, l'ensemble de la communauté internationale l'a bien compris. La COP22 a été un accélérateur pour faire comprendre ce point. Et les négociateurs savent très bien que l'accord de Paris a été rendu possible parce que la délégation africaine, soutenue par la délégation marocaine, a accepté les principes de la COP21 en échange d'efforts faits sur l'adaptation. Et il me semble que c'est aujourd'hui ça qui est le risque le plus important au niveau de la fin de présidence COP22 et donc des réunions de Bonn, et au niveau de la préparation de la COP23 qui aura lieu à Bonn en novembre sous la présidence des îles Fidji.
Quels sont les objectifs à atteindre en 2023 ?
Les objectifs à atteindre en 2023, c'est d'avoir mis en place l'ensemble des instruments, l'ensemble des modes de financement qui permettent de rester sous le seuil de réchauffement qui a été décidé à la COP22. Ça, c'est l'objectif minimum. Et vous avez aujourd'hui l'Afrique plus tous les États insulaires qui poussent à avoir atteint à l'horizon 2023 un engagement politique supplémentaire qui sera mis en œuvre, plus tard, pour limiter les émissions à un taux compatible avec un réchauffement de 1,5 degré. Il y a un enjeu autour de ça et une incertitude. L'enjeu est très simple, c'est que même à 2 degrés, il y a un risque très fort, même à 2 degrés de réchauffement moyen, vous l'avez compris, les impacts sont différenciés sur l'ensemble du monde, même à 2 degrés, vous avez une grande partie des États insulaires du monde qui risquent de disparaître. Et ces États peuvent survivre si on limitait le réchauffement à 1,5 degré. La grande incertitude, elle est très simple, c'est que sur ce point, c'est une course de temps, et c'est là où le risque de positionnement et de ralentissement par les États-Unis est le plus fort en réalité. Donc sur les accords déjà signés à Paris, moi je crois qu'il y a peu de risques. Sur la volonté nécessaire d'aller plus vite, plus fort, plus loin, c'est là où j'allais dire un ralentissement des efforts par les États-Unis pourrait endommager l'avenir pour l'ensemble de ces États insulaires et à ce moment-là créer des dizaines de millions de réfugiés climatiques.
Joël Ruet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur au Centre d'économie de Paris-Nord. Il est midi 19 minutes sur chaîne Inter. Nous parlerons de développement durable, d'agriculture et d'innovation au cœur de Saint-Fosse. Juste avant, écoutons « Nothing gonna stop us now » de Starship.